Eh bien, bonsoir à toutes et à tous, c'est Cinéscopie sur Radio Troublefête. Cinéscopie, une émission proposée et animée par Laurent Craven et Chris Lucas, consacrée, vous le savez, au cinéma, à l'actualité du cinéma, du Blu-ray, DVD, et puis à la musique de film également. Alors bien, commençons d'ailleurs par la musique de film avec quelques nouveautés discographiques annoncées aujourd'hui par le label Music Box. Music Box qui est en fait un label français, comme ne l'indique pas son nom. Alors, Music Box nous propose une réédition, la réédition des bandes originales des films de Jean-Jacques Haneau, Coup de tête et La victoire en chantant, deux musiques composées par Pierre Bachelet pour ces films. Alors, Coup de tête, c'est 1979 et La victoire en chantant, c'était 76. Voilà, c'est les deux films sont associés sur la même galette. Et voilà, c'était vraiment très intéressant de retrouver ces deux films de Jean-Jacques Haneau qui sont d'ailleurs parmi les meilleurs films de son auteur. Alors c'est une réédition, mais dans une nouvelle version remasterisée. Voilà, donc ceux qui n'avaient pas déjà ces bandes originales, eh bien peuvent se les procurer chez Music Box. Et puis à l'occasion du 40e anniversaire du film Gwendoline, eh bien la musique de ce film ressort, mais pour la première fois d'ailleurs en compact disque. Il y avait eu un vinyle à l'époque, et puis cette fois-ci donc c'est sur le support CD que Gwendoline fait son apparition. Gwendoline, je vous le rappelle, c'est un film de Juste Jacquin qui est le pape du film érotique dans les années 70, puisqu'on lui doit notamment Emmanuel, Histoire d'eau et puis L'amant de Lady Chatterley. D'ailleurs, L'amant de Lady Chatterley et Emmanuel, bien sûr, avec Sylvia Christel. Voilà, Histoire d'eau, c'était autre chose. Et puis, il réalise ce film, Gwendoline, qui est un film qui sort en France en 1984. C'est un film d'aventure saupoudré d'érotisme, qui est en fait l'adaptation d'une bande dessinée de John Wiley. Voilà, et c'est un long métrage qui mélange un peu les deux genres, aventure et érotisme. Et c'est un film qui mérite d'être vu, parce qu'il y a dans ce film le premier grand rôle au cinéma d'une actrice devenue célèbre, Zabou Breitman. Voilà, donc c'est un de ses premiers rôles au cinéma. La particularité de la musique de Gwendoline, c'est que c'est Pierre Bachelet qui l'a écrite. Pierre Bachelet, qui a collaboré vraiment sur de très nombreux films de Juste Jacquin, puisque c'est lui qui avait fait Emmanuel, Histoire d'eau. Et la petite particularité supplémentaire, c'est que l'un des thèmes musicaux de Gwendoline a été retravaillé plus tard par Pierre Bachelet, et ça a donné une chanson assez populaire, d'ailleurs ça avait fait un succès en l'an 2001. Voilà. Alors vous rappelez cette mélodie de la chanson en l'an 2001, je ne veux pas la faire, mais enfin vous la connaissez. Et donc c'est un des thèmes de la musique de Gwendoline. Alors, ce CD, il est assez intéressant parce que non seulement il y a la musique de Gwendoline, alors essentiellement d'ailleurs écrite pour des synthétiseurs, hein, parce que c'est une musique assez planante bien souvent, voilà. Mais il n'y a pas que Gwendoline sur ce disque, il y a également, et alors là c'est une curiosité, et c'est vraiment, je pense que ça va vous intéresser, parce que c'est quand même un film culte, il y a la musique composée d'ailleurs par Pierre Bachelet lui-même pour un film de José Benazeraf, La soubrette perverse. Alors La soubrette perverse a été réalisée en 1974, et c'est quand même un film érotique, voilà, qui a marqué son époque. Et Pierre Bachelet, décidément, Pierre Bachelet était pas mal associé finalement à l'érotisme au cinéma dans ces années 70. Et enfin, cerise sur le gâteau, il y a un instrumental composé et interprété par un groupe qui à l'époque avait rencontré un certain succès, c'est le groupe Résonance, composé de Pierre Bachelet et de Matt Camison. Et cet instrumental s'intitule « Hockey Chicago ». Il date lui aussi de 1974 et c'est devenu un instrumental culte de ce groupe, voilà, Résonance. Donc un album assez intéressant finalement, Gwendoline, La soubrette perverse, et cet instrumental du groupe Résonance, Hockey Chicago. Et puis une autre sortie également assez conséquente, le 8e volet des BO introuvables. En fait, Music Box a créé une collection intitulée Les BO Introuvables. Et à chaque fois, c'est un coffret qui comporte 3 compacts disques et qui nous permet de retrouver voilà, des musiques de films qui parfois ont été éditées en vinyle à l'époque de la sortie de ces films et parfois pas du tout. Alors dans ce nouvel opus, dans ce 8e coffret, eh bien, vous pourrez trouver les musiques des films Les Dames Galantes, un film réalisé par Jean-Charles Takela en 1990, ainsi que Priez pour nous, un film de Jean-Pierre Vergne de 1994. Les Dames Galantes et Priez pour nous ont été, la musique de ces films a été composée par Raymond Alessandrini. C'est un compositeur qui est parmi les meilleurs, hein, assez discret, voilà, pas aussi connu que Georges Delerue par exemple, mais c'est toujours des compositions intéressantes, toujours très très bien écrites. Et donc on va retrouver donc Raymond Alessandrini, mais on va aussi retrouver Jean-Claude Petit dans ce coffret, avec notamment la musique du polar L'Addition, un film de 84 de Demi Amar, ainsi que la musique du film Tristesse et Beauté, un film de 1985 de Joy Fleury, qui est d'ailleurs une très belle musique que je vous conseille de retrouver sur ce coffret. Et puis, dernière star de ces introuvables, c'est Jean-Claude Vanier pour sa bande originale du film L'amour propre ne le reste jamais très longtemps. Un film, là aussi, de 1985, réalisé d'après Martin Véron, d'après sa bande dessinée, vous en souvenez. Et puis, pour conclure, dans ce coffret, eh bien, on aura le plaisir de découvrir un compositeur beaucoup plus confidentiel, pour un film qu'il est tout autant d'ailleurs, Salut, j'arrive, un film de Gérard Poteau, un film de 1982, et la musique est signée Christian Pégan. Alors voilà, plusieurs genres musicaux sont convoqués sur cette BO, le jazz, le funk, la valse, voilà, sont en programme de cette bande originale. Voilà donc les sorties proposées par Music Box Records aujourd'hui, à la veille des grandes vacances. Voilà, donc on peut dire un petit hommage à Pierre Béchelet à travers ses sorties et les rééditions des films de Jean-Jacques Hano. Et puis ce coffret des Introuvables, voilà, c'est une belle collection. Sur 3 compacts disques. Voilà pour l'actualité, mon cher Laurent. Bonsoir, mon cher ami.
Bonsoir. Eh bien, oui, temps fort pour la musique de film. Et c'est vrai que très très belle sortie là, du label Music Box. On le suit, on est assez fidèle hein, d'ailleurs de cette collection, en particulier de ces coffrets de rares en fait de BO, qui n'ont
s'épuisent assez vite. Hein.
Voilà, c'est déjà, et puis parce que tout simplement il n'y a pas eu véritablement d'édition intégrale de ces musiques, et puis voilà, ça fait un petit survol.
Oui, puis surtout pour des films qui ont eu un succès d'estime et puis qui bon n'ont pas vraiment qui n'ont pas eu non plus une carrière incroyable. Oui, ça permet de retrouver ces films.
Et puis que musicalement, il y a dans la sélection des trésors musicaux. Vraiment c'est, et puis après bon bien sûr ces musiques de Pierre Bachelet que nous possédons
pour certaines.
Oui, en vinyle.
Tu parles de Gwendoline, par exemple.
Gwendoline, qui avait eu une édition vinyle. Très, très belle édition, d'ailleurs, à la pochette. Et là, bon, voilà, forcément, nous, on va être sur...
On sera preneur, en tout cas.
Oui, tout à fait. Ça fait partie de...
Bah, surtout pour la soubrette perverse, parce que tout de même... j'aime bien Gwendoline, mais la soubrette perverse, ça n'avait jamais été édité, on s'en doute bien. Et on a un petit quart d'heure, comme de musique, issue de ce film de Benazir.
Et puis, c'est là où on découvre que, quand même... parce que c'est vrai que Pierre Bachelet est souvent décrié, et c'est un excellent compositeur, et qui ne vient nullement nuire à sa... Je veux dire, à sa carrière dans la variété, mais qui est musicalement assuré, et c'est un excellent mélodiste, quoi que beaucoup de monde en dise. Voilà.
Tout à fait. Bah oui, on sait quand même, il a quand même signé quelques tubes. J'adore Aller d'ailleurs, tu sais, j'ai adoré cette chanson. Ouais. Eh bien, mon cher Laurent, puisqu'on parle de musique. Est-ce qu'on va commencer en musique cette émission? Oui, je pense.
Comme à l'accoutumée. Et là, pour le coup, on va commencer, je dirais, mélodiquement par vraiment de la haute volée, je dirais, par le maître incontesté, maestro.
Oui.
C'est Ennio Morricone.
Ouais.
Pour le film, et un, qui est un téléfilm en fait,
oui,
Padre Pio, Entre ciel et terre, un téléfilm italien des années 2000, mmh. Réalisé par Giulio Baz, et qui met en vedette en fait Michele Placido dans le rôle titre. Et donc, à ses côtés, belle distribution, hein, Barbara Bobulova, Saverio De Corle, Massimo Bellinzoni, Rocco Papaleo, Lucio Aloca et Francesca Gamba, pour un téléfilm qui a été récompensé au passage, hein, par un premier prix. Et à savoir que, bah, que raconte d'ailleurs l'histoire de Padre Pio, en fait, c'est un film qui est basé sur les événements réels de la vie d'un frère catholique romain, et plus tard qui devint Padre Pio.
Oui, je crois qu'il a, enfin, il a souffert des stigmates du Christ, en fait, hein, il me semble. Et apparemment, il accomplit des miracles aussi, voilà, donc... Ah, c'est Michele Placido, tu l'as dit, ce formidable acteur qui prête ses traits.
Ouais, ouais. Et donc là, quand on écoute la partition d'Ennio Morricone, eh bien, ça fait partie des grandes partitions du maître.
Ah oui.
Alors peut-être un peu moins connu, parce que forcément, à côté de des musiques soit de western ou de mission, enfin, on pense que c'est des meilleurs. Et somme toute, eh bien, on a pu se la procurer parce que il y a un petit éditeur qui est basé, me semble-t-il, à Malte. Ouais. C'est Kronos Records, ouais, qui régulièrement, eh bien, propose des salves de titres, qui a un catalogue assez éclectique. Hein, et
donc, pas mal d'Italiens quand même. Hein.
Oui, c'est vrai. Entre autres, pour mémoire, il y a des partitions de Bruno Nicolai qui aujourd'hui sont épuisées, parce que c'est vraiment un petit tirage, hein, parce que c'est entre 300 et 500 copies à l'international, donc c'est vraiment une petite distribution, et ça vaut vraiment le détour. D'ailleurs, le premier titre, je me souviens, qui était vraiment une, je dirais, une exclusivité, parce que à l'époque, il n'y avait quand même très très peu d'éditions concernant ce compositeur. C'était Akira Ikufube, et donc c'était une sélection en fait de thèmes. Et franchement, ça valait vraiment le détour.
Mmh. Il faut quand même savoir que la musique de Padre Pio a été éditée une première fois par Warner Italy, et c'est ça a été repris par Kronos Records effectivement. À savoir également que Ennio Morricone a visiblement été très inspiré par le sujet, puisque quand même le thème principal et son développement n'a rien à envier par exemple à celui de Mission, et même si effectivement le téléfilm est resté confidentiel, en tout cas par chez nous, bah, la musique est vraiment sublime.
Oui, mais je pense que ça rentrait un petit peu vraiment dans son domaine de prédilection quand on écoute l'intégralité, parce qu'il y a aussi un morceau, et plutôt le final d'ailleurs, qui est tout en vocal, et donc forcément on sent véritablement l'inspiration de Morricone, parce que il y a ce côté extrêmement classique, hein, de cette partition, et qui rejoint totalement l'univers Morricone, parce que derrière ces accents un petit peu modernistes qu'on a pu entendre ça et là dans ses plus grands thèmes les plus populaires, c'est quand même un artiste ultra classique, alors qu'il n'a rien de péjoratif, hein. On reconnaît très rapidement la patte Morricone, parce que tout simplement il y a ce côté très classique et aussi mélodique, et orchestral aussi, parce que il y a vraiment je dirais très souvent dans la conception musicale et orchestrale, que ce soit dans les solos d'instruments, on sent radicalement l'inspiration Morricone, et la maîtrise forcément.
Peut-être un côté, une dimension mystique aussi chez le compositeur, parce qu'il a quand même pas mal écrit de pièces religieuses. Il a écrit aussi d'ailleurs pour le téléfilm consacré à Jean-Paul II.
Oui,
je me souviens de ça. Et d'autres, hein, il a... C'est un pan non négligeable un peu de sa musique, tout de même.
Tout à fait. Donc là, on va écouter un thème, enfin, c'est deux thèmes, en fait. Il y a le thème d'ouverture qui est vraiment superbe. Mmh. Et donc, un thème un petit peu plus intimiste.
Ouais.
Et donc, on va écouter la Sofferenza et Padre Pio tira cello et terra, donc entre ciel et terre. Et donc, ça dure à peu près un petit peu plus de 8 minutes. Et on se retrouve juste après pour parler des nouveautés à la vidéo. Et bien sûr, elles sont nombreuses. Le mois de juin fait partie des mois les plus prolifiques pour les sorties vidéo, avant d'attendre peut-être le mois le plus riche, qui est le mois de septembre, qui est la rentrée, en fait,
ouais,
où toutes les nouveautés arrivent. Et après, bah, grosso modo, sur le dernier semestre, bah, souvent, c'est la reprise de ce qui est sorti sur l'année, mais avec des coffrets, voilà, une sélection.
Ouais, approche des fêtes, en général.
Voilà, tout à fait. Ouais. Avec ça et là, quand même, quelques coffrets aussi inédits. Mais donc, on vous en parlera un petit peu plus longuement dans quelques instants. Tout de suite, Padre Pio, Ennio Morricone. rubrique vidéo.
L'actualité, voilà, c'est, j'ai le micro, merci Laurent. L'actualité du support physique, Blu-ray, DVD, Steelbook, c'est tout de suite dans Cinéscopie. On va vous faire vous parler des DVD, des films qui sortent, qui nous semblent intéressants. Voilà. Et je voudrais d'abord vous annoncer l'apparition d'un coffret de la série Les nouveaux exploits d'Arsène Lupin. Alors, on avait déjà eu les exploits d'Arsène Lupin avec François Dunoyer, pardon, dans le rôle principal, mais il y avait eu une autre saison, Les nouveaux exploits, qui n'étaient pas encore sortis. Eh bien, c'est chose faite avec ces nouveaux exploits qui vont sortir très prochainement, Les nouveaux exploits d'Arsène Lupin, uniquement en DVD. D'ailleurs, c'est un petit peu dommage. Moi, j'aurais bien aimé que, eh bien, on ait une édition Blu-ray avec une image vraiment au top. Alors, ce sera une image tout juste correcte, mais bon, ça permet comme de retrouver cette très bonne série. Moi, j'ai vraiment beaucoup aimé cette nouvelle itération des aventures d'Arsène Lupin. Alors, évidemment, pour moi, Arsène Lupin restera jamais Georges Descrières. Pour d'autres, ça sera Robert Lamoureux, peut-être, bien sûr. Mais voilà, pour moi, c'est Georges Descrières, Arsène Lupin. Mais j'avoue que François Dunoyer n'a pas démérité, bien au contraire. Et c'est même dommage, finalement, qu'il n'ait pas continué dans cette lancée. En tout cas, très, 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 très belle série, avec une musique signée, d'ailleurs, Vladimir Cosma. Donc, je vous conseille, franchement, de vous procurer, quand ça va sortir, ce coffret, Les nouveaux exploits d'Arsène Lupin. Et puis, dans les bacs, on trouve des choses comme très intéressantes actuellement, tout comme, je sais pas si tu en as parlé, Laurent, la semaine dernière, mais le film de... Je crois que tu en as dit un mot, mais je le rappelle, c'est Dream Scenario. Je crois que tu en as peut-être dit un mot de ce Dream Scenario.
C'est possible qu'on en ait parlé, oui.
Oui, la vie d'un humble professeur d'université qui change dramatiquement lorsque des millions de personnes se mettent à rêver de lui. Ouais, un scénario, un pitch assez intéressant pour ce film de Christopher Borgli avec Nicolas Cage, Lily Bird et Julianne Nicholson. C'est un film qui flirte avec le fantastique, la science-fiction et qui dénonce vraiment la présence envahissante des réseaux sociaux dans nos vies. Voilà, à travers cette fable qui est à la fois drôle et inquiétante. Voilà, ça s'appelle Dream Scenario et vraiment le film est excellent. C'est A24, le studio A24 qui produit ce film. C'est une société de production indépendante qui en général justement produit des films assez originaux avec des pitchs comme ça assez déconcertants, mais voilà, il y a toujours du fond, toujours très intéressant. Et Nicolas Cage, vraiment très très bien dans le rôle. Je vous rappelle la parution, alors ça c'est chez Metropolitan, Dream Scenario, donc vous pouvez y aller, je vous recommande vraiment ce film. Je vous rappelle, je vous en avais dit un petit mot la semaine dernière, mais l'apparition de Malville, le film de Christian de Chalonge, avec une belle distribution, puisqu'on y retrouve Michel Serrault, Jacques Dutronc, Jacques Villeray, une musique signée Gabriel Yared. Et c'est un long film de 1981 qui raconte comment, après une explosion nucléaire, une poignée de survivants tente justement de s'organiser. Et voilà, ce Malville avait, je crois à l'époque quand même, avait été plutôt bien accueilli par la presse et par le public. Et le film nous est proposé par Tamassa dans avec un master haute définition restaurée. Voilà, donc vous pouvez y aller. C'est vraiment un excellent film de genre, Malville, et qui je crois était d'ailleurs adapté d'un roman de. Je peux pas dire de bêtises. Hein, voilà. Je vous en dirai plus, parce que j'ai un petit doute tout d'un coup. Alors par contre, maintenant passons au fantastique pur, avec là aussi un film qui est sorti dans nos bacs cette semaine, c'est Amélia's Children, un film portugais de Gabriel Abrantes, avec dans les rôles principaux Bridget Lundy Payne, Carlotto Cotta et Annabella Moreira. L'histoire d'un homme qui se rend au Portugal avec sa petite amie pour y rencontrer son frère jumeau et sa mère, alors qu'il pensait être orphelin. Mais sur place, la visite va bien sûr tourner au cauchemar. Voilà un film tour à tour inquiétant et dérangeant qui sombre petit à petit dans l'horreur et le malsain. Voilà, très film qui avait été d'ailleurs primé au festival de Gérard Maire, puisqu'il avait obtenu le prix du jury. Voilà, donc si vous avez aimé les films comme Les Autres de Alejandro Amenábar, hein, je pense à ce film, eh bien je crois que vous aimerez Amelia's Children, qui a eu une petite carrière au cinéma. Je crois que à l'image, il a dû rester une ou deux semaines, pas plus. Hein, c'est un petit peu dommage. Et puis je crois qu'il est passé ensuite à des horaires. Voilà, c'est un peu difficile de le voir en journée. Restons avec le fantastique, cette fois-ci avec un film de Roger Corman. On en a parlé il y a quelques jours, puisque ce pape de la série B américaine nous a quittés, à un âge d'ailleurs fort avancé. Roger Corman qui nous est donc à l'affiche avec un film proposé par Sidonis Kalista, La Chambre des Tortures. C'est un des classiques de Roger Corman, avec dans les rôles principaux Barbara Steele, John Kerr et Vincent Price. Donc bon, voilà la distribution magique pour ce classique de 1961, film en couleur, hein, et qui nous est présenté avec voilà une image assez remarquable de précision qui nous fait vraiment oublier le DVD qui était sorti en 2004, me semble-t-il, où l'image était vraiment pas terrible. Donc là, si le film nous est proposé dans une très très bonne version, et je vous le conseille, La Chambre des Tortures. Alors en plus, dans ce film, il y a un bonus qui est une présentation de l'œuvre de Roger Corman par Olivier Père, qui, vous savez, le directeur des programmes d'Arte Cinéma. Alors là, je vous en ai un petit peu parlé la semaine dernière, mais je vous en reparle parce que ça mérite vraiment le détour. C'est chez Sidonis Kalista également l'apparition du film From Beyond, aux portes de l'au-delà, un film réalisé par Stuart Gordon, vaguement inspiré de l'œuvre de Lovecraft. C'est vrai qu'à l'époque, c'est comme Edgar Poe, hein, c'est comme une caution littéraire et artistique. Mais cela dit, ce film de Stuart Gordon est quand même très réussi. L'histoire d'un psychiatre et d'un policier qui enquêtent sur les expériences d'un scientifique obsédé par la stimulation de la glande pinéale. Mais qu'est-ce donc ? À vous de voir ce film avec des effets spéciaux pas du tout numériques, des maquillages pas du tout numériques, et ça fonctionne très très bien. C'est assez peu ragoûtant d'ailleurs, mais dans le genre, c'est plutôt bien fait, franchement. Alors les acteurs. Ah, mais j'adore les acteurs, puisqu'on retrouve Jeffrey Combs qui a connu la popularité avec son rôle du docteur Herbert West dans Réanimateur. Bon, là aussi, d'ailleurs, on était dans l'inspiration lovecraftienne, hein, avec Réanimateur. Dans From Beyond, on retrouve également Barbara Crampton. Alors, Barbara Crampton, elle joue aussi dans Réanimateur, mais je crois que la première fois que j'ai découvert cette actrice, c'est dans Body Double de Brian De Palma. Elle joue un rôle totalement déshabillé, tout à fait au début du film. C'est la petite copine du personnage principal qui le trompe, hein, au tout début du film. Voilà, elle est tout à fait magique, Barbara Crampton. J'adore. Et puis il y a également Ken Foree. Alors Ken Foree, lui, on l'avait découvert dans les années 70 dans Zombie de George Romero. Voilà, donc une belle distribution et une musique signée Richard Band. Les bonus, ben, y a quand même pas mal de bonus, et le film, attention, est présenté en ultra haute définition, donc c'est vraiment le nec plus ultra. C'est vraiment un classique incontournable, à mon avis, de la science-fiction qu'il vous faut découvrir chez Sidonis Kalista. J'adore ce film. Alors maintenant, un petit mot du cinéma italien, avec les films du Camellia, qui nous propose un film un peu oublié de Luchino Visconti, Bellissima. Nous sommes dans l'Italie de l'après-guerre, et une mère met tout en œuvre pour faire engager sa petite fille de 7 ans sur le tournage d'un film. C'est le pitch, point de départ de ce film de Luchino Visconti, avec la superbe Anna Magnani. À ses côtés, il y a Tina Apicella et Walter Chiari. Donc franchement, une édition sublime, avec donc une version qui a été restaurée à partir du négatif original. Donc on a vraiment des conditions optimales pour redécouvrir ce film de Visconti, réalisé en 1951. Bon, c'est un film en noir et blanc. La musique est signée Franco Manino. Et voilà. Parce que, alors, le petit bémol, si tu veux, avec les films du Camellia, je trouve, c'est le prix. Sauf que quand même, là on a, c'est un combo quand même, Blu-ray, DVD, mais quand même, je trouve que chez les films du K-Media, c'est un petit peu onéreux, on flirte avec les 30 euros pour un film, voilà. Donc, j'avais fait la remarque avec notamment The Appointment, le film britannique, il n'y a qu'un seul film et on était pas loin de 50 euros là, donc voilà. Bah, écoutez, si vous m'écoutez, les films du K-Media, bon, enfin moi, on a quand même le film, hein, donc Bellissima.
En fait, souvent, c'est quand même de très très belles éditions.
Ah oui, non, bah,
au passage. Alors, c'est vrai que oui. Bon, ça n'autorise pas non plus à avoir des tarifs prohibitifs,
non,
mais.
Pas... Oui, non, voilà, là, c'est pas vraiment prohibitif, si tu veux, mais bon. Alors, donc là aussi, quelque chose d'assez surprenant, c'est un film qu'on avait là aussi oublié, un film italien, en fait, une coproduction entre la France et l'Italie de 1956, Le Château des Amants Maudits. Alors, Le Château des Amants Maudits, c'est Gaumont Vidéo qui nous le propose, un film réalisé par Riccardo Freda. Alors, Riccardo Freda, pour les amateurs de fantastique, c'est un réalisateur culte, hein, quand même. Donc, on le retrouve dans ce film avec dans un film historique, on va dire, qui s'inspire d'une histoire vraie qui a été adaptée plusieurs fois au cinéma. C'est l'histoire de Béatrice Cenci ou Cenci, vous prononcez comme vous voulez. Nous sommes à l'aube du XVIIe siècle. La fille d'un seigneur italien, lassée de vivre sous le joug tyrannique de son père, projette de quitter le domaine familial en compagnie du nouvel intendant. Voilà donc le sujet. Dans les rôles principaux, Micheline Prel, qui vient elle aussi de nous quitter. Donc c'est une belle occasion de retrouver cette formidable comédienne. Et Gino Cervi également. Gino Cervi, évidemment, on le connaît surtout pour son rôle de mère bourru dans la série des Don Camillo. Également, il a interprété le commissaire Maigret, hein, version italienne, un petit peu de Maigret. Mais là, voilà, c'est une façon de le retrouver dans un autre rôle où il était d'ailleurs assez convaincant. Je vous conseille ce Château des Amants Maudits, qui est un film qui avait un petit peu disparu de la circulation et que Gaumont nous permet de retrouver dans une collection où d'autres titres d'ailleurs sont annoncés. Je ne sais plus d'ailleurs comment s'appelle cette collection, je regarde dans mes petites notes, ça s'appelle Les Inclassables, voilà. Il y avait déjà eu une première vague d'inclassables, notamment je me souviens du film Sept Hommes en Or, une comédie italienne, une comédie de braquage d'ailleurs qui était très réussie.
Oui.
Et dans cette collection Les Inclassables, eh bien, il y a ce Château des Amants Maudits de Riccardo Freda, mais d'autres titres sont annoncés. Peut-être que Laurent nous en parlera ce soir ou à un autre moment, bien sûr. Mais
voilà, voilà. Ça fait partie toujours de cette politique qu'a Gaumont, hein, c'est-à-dire de partir en fait sur des titres qui sont issus de cette collection Gaumont à la demande et qui, ça et là, ont eu un succès d'estime, je dirais, et qui, font partie d'une sélection assez régulière de chez Gaumont pour dire, ben voilà, tel et tel film qui ont eu succès de travail de remasterisation tant sur l'image que sur le son, eh bien, ça a quand même eu du succès, et donc on va travailler dessus pour sortir des masters haute définition, et c'est le cas de ce titre-là, comme beaucoup d'autres, dans cette collection Gaumont. Vous pouvez pas la rater, parce qu'en fait, le packaging est blanc, et donc, en fait, il y a toute une collection qui s'est issue, en fait, à l'origine... de sortie comme cela de Gaumont à la demande, parce que tout simplement c'est extrêmement onéreux de faire de la remasterisation de vieux films, et Gaumont s'était lancé au tout début dans des restaurations assez classieuses qui étaient d'ailleurs remasterisées par un laboratoire que l'on connaît, qui est le laboratoire Éclair, et qui remasterisait la plupart des titres de chez Gaumont. Et là, forcément, je dirais la conjoncture a fait qu'aujourd'hui, eh bien, ce sont des éditions un petit peu plus chiches, qui sont beaucoup plus accessibles, mais où vous avez quand même de la haute définition. Alors avec beaucoup moins de bonus, certes, mais voilà, ça a le mérite quand même d'exister on va dire, dans un résultat tout à fait optimal.
Ah oui, et puis alors, ce sont quand même des raretés, hein, c'est des films qu'on a vraiment oubliés, mais qui valent le coup d'être redécouverts. Et je précise en plus à petit prix. Ouais, c'est pas des. Voilà, c'est, là,
oui,
du coup,
oui,
c'est accessible.
Sur, sur de la haute définition, en prix nouveauté, ça tourne aux alentours de 15 euros.
Oui, donc là, ça vaut le coup.
Et si vous patientez un tout petit peu, très souvent, vous pouvez trouver ces titres-là dans des opérations promotionnelles. Donc, ça vaut vraiment le détour, parce que c'est vrai que c'est quand même destiné à un public averti cinéphile. Mais bon, voilà, ça permet aussi de découvrir des films qui sont totalement oubliés du petit écran. Hein, parce que là, pour le coup, c'est...
À noter quand même que l'histoire de Béatrice Cenci a inspiré un autre cinéaste un petit peu plus tard, c'est Lucio Fulci, puisqu'il en a proposé sa propre version, et c'était il y avait George Wilson dans le rôle principal, ainsi que Thomas Millian, qui d'ailleurs dont le film a été, je crois, édité dans une belle version remasterisée aussi chez Artus, je crois, me semble-t-il. Et puis j'en termine avec un chef-d'œuvre du thriller. Il faut dire ce qui est. Et ce film s'intitule L'homme qui voulait savoir. Alors, c'est un film néerlandais qui a été en partie tourné en France d'ailleurs. L'histoire d'un couple qui est un couple de Hollandais qui est en vacances en France. Et à un moment donné, le couple s'arrête sur une aire d'autoroute et dans une station-service. Et lorsque le mari revient à la voiture, eh bien sa femme a disparu. Que lui est-il arrivé? Et c'est ça un peu l'histoire du film, c'est-à-dire que cet homme n'aura de cesse de retrouver, ou de comprendre en tout cas, ce qui est arrivé à sa femme. Je n'en dis pas plus, je ne vais pas vous spoiler tout ça, parce que c'est un film assez terrifiant. D'ailleurs, Stanley Kubrick lui-même avait déclaré que c'était le film le plus terrifiant qu'il ait jamais vu de sa vie, et qu'à côté, eh bien, Shining, c'était un conte pour enfants. Donc, Et c'est vrai que le film est assez impressionnant. Il est très très bien écrit. Écrit d'ailleurs par le scénariste du film. C'est l'auteur du roman dont s'inspire l'homme qui voulait savoir, puisqu'il s'agit du titre, je ne sais pas si je vous l'ai dit. Le titre, c'est L'homme qui voulait savoir. Un film de Georges Suizer, avec dans les rôles principaux Jean Berwoetz, Bernard-Pierre Donadieu et Johanna Derstige. Un film de 1988 qui a été couronné par de multiples prix, de multiples récompenses à travers le monde, et à tel point d'ailleurs que les Américains ont demandé à Georges Suizer de réaliser lui-même le remake de son film. Donc il y a une version hollywoodienne qui existe, qui s'appelle The Vanishing, La Disparue, avec Jeff Bridges dans le rôle principal. Et donc voilà, c'est une... Alors, il faut quand même savoir que la version The Vanishing, La Disparue, la version américaine, elle reste elle aussi particulièrement noire, mais avec une fin un petit peu moins macabre, enfin c'est comme macabre, hein, mais enfin bon, disons que c'est un petit peu moins noir, si je puis dire, que la version qui nous est proposée ici, hein, donc la version originale de ce film, qui nous est proposée par Sidonie Scalista dans une édition Digibook limitée à 1000 exemplaires. Des bonus très intéressants, notamment la présentation du film par Samuel Blumenfeld, et puis des entretiens, notamment avec le réalisateur et la comédienne principale. Ah voilà, l'image est excellente. J'ai commencé à regarder le film. Je regarde toujours le générique des films, hein, pour voir un petit peu à quoi ça ressemble. J'ai pas encore voulu regarder la totalité du film, mais en tout cas le début, voilà, ça promet. Et voilà, donc il faut vraiment vous procurer ce thriller, L'homme qui voulait savoir. La mise en scène est vraiment incroyable. Et c'est un des meilleurs rôles, peut-être le meilleur rôle de Bernard-Pierre Donadieu d'ailleurs, hein, puisque c'est un acteur qu'on a un petit peu oublié. Pourtant, une sacrée tronche du cinéma. Moi, je m'en souviens, c'était notamment dans Rue Barbare, où il affrontait Bernard Giraudot. Et on s'en souvient également dans Le Professionnel. C'est lui à la fin qui flingue Joss Beaumont, le professionnel.
Tout à fait. Mais il faut dire que bon, il y avait une figure là, pour le coup.
Ah oui. Et puis on l'a revu plus récemment dans Faubourg 36. Voilà. Et puis Bernard-Pierre Donadieu nous a quittés. Il a rejoint le monde du cinéma, les étoiles du cinéma. Et il y a d'ailleurs, c'est assez touchant, dans le livret qui accompagne cette édition Blu-ray, une lettre, un mot de sa fille, voilà, qui s'adresse à son père et qui lui rend hommage. C'est assez émouvant. Et donc, moi, je vous conseille ce combo Blu-ray haute définition et DVD avec donc un livret écrit par Olivier Père, l'incontournable Olivier Père.
Et dans une édition limitée, 1000 exemplaires. Donc oui, voilà, c'est quand même à dire parce que ouais. ça peut partir assez vite. Quand même.
Ah oui, oui, oui.
Donc, eh bien, on poursuit cette sélection avec une très très belle édition d'un film de 1993 qui nous avait enchanté dans Cinéscopie à l'époque, un film de Chen Cage avec Leslie Cheung, Zhang Fengyi, Gong Li, c'est Adieu ma concubine. Un film fresque qui raconte sur un demi-siècle la vie professionnelle et sentimentale de deux danseurs de l'opéra de Pékin. C'est somptueux, c'est très bouleversant aussi, une fresque assez furieuse où les mouvements du cœur s'inscrivent dans ceux de l'histoire. Et somme toute, alors, quelquefois c'est souvent décrié, mais là pour le coup c'est fabuleuse palme d'or de Cannes, du festival de Cannes de l'époque, pour donc ce superbe film qui vous est proposé dans une édition DVD, Blu-ray et Blu-ray 4K. Voilà, donc on le doit à Carlotta, avec... bien pas mal de bonus et entre autres un livret d'une quarantaine de pages avec un jeu de photos et aussi un marque-page et une affiche du film. Voilà, donc c'est une édition quand même relativement complète, un petit peu onéreuse aussi, mais bon voilà, on ne peut pas tout avoir.
Donc c'est un bel écrin pour un chef-d'œuvre.
Oui. Et donc, en termes de mastering, eh bien, ma foi, on touche la perfection pour ce film de 93, belle restauration de nos amis de chez Carlotta.
Je crois que le film a eu la Palme d'Or, je ne sais pas si tu l'as dit.
Oui, mais... oui, tout à fait, je l'ai dit.
Bon, désolé.
un petit moment d'absence.
Tout à fait, oui.
Alors, un classique, là par contre, assez peu connu. Film soviétique de 1976.
Ah, là, c'est une intrigue.
Un film d'Émile Loteanu avec Grigore Grigoriou, Svetlana Toma et Barasby Moulayev.
Bravo. Alors, on retrouve le polyglotte en toi.
Je pense que, alors quand même, on est cinéphile, mais il me semble voilà, que tu auras des difficultés quand même. Me semble-t-il, hein, quand même. Hein, je ne vais pas trop m'avancer, mais à trouver le titre de ce film.
Effectivement, ça ne vient pas comme ça.
Et donc, le titre, alors on peut parler du titre original, Tabor Ukodit Veneo. ou le titre français quand même, ça sera beaucoup plus facile, Les Tziganes montent au ciel. Et donc ça a été un immense succès au box-office, 65 millions d'entrées, donc c'est quand même c'est pas n'importe quoi. Le pitch, on est au 19e siècle, l'histoire d'un voleur de chevaux qui s'éprend d'une belle et fière gitane. Et alors, dans ce film-là, eh bien, il y a, on va dire, une scène très audacieuse et alors assez controversée à l'époque, tout simplement parce que c'est une scène d'effeuillage quasi intégrale de l'héroïne et on suppose quand même que je dirais le nombre d'entrées est peut-être en rapport avec cette scène. C'est une adaptation de deux romans russes rythmés de nombreuses chansons folkloriques qui bat en brèche les clichés liés à la communauté tzigane. Alors c'est vrai que peut-être le petit point négatif, c'est que le traitement naïf et très premier degré de la tragique histoire d'amour est passablement datée. Somme toute, ce film-là vaut quand même d'être visionné, en sachant qu'on le doit forcément à un éditeur qui promotionne souvent d'ailleurs le cinéma soviétique, c'est Potemkin. Mmh. Et donc pour le coup, en termes de bonus, eh bien, vous avez l'embarras du choix, parce que ce sont que des bonus qui sont inédits, en haute définition. Et donc, vous avez une présentation qui est aussi brillamment synthétique par un spécialiste des films produits par l'Union soviétique, portrait d'ailleurs appliqué du réalisateur, retour fouillé sur le tournage, éprouvant d'ailleurs pour l'interprète principal, qui était le seul à ignorer pour plus d'authenticité, que sa partenaire avait une poche de faux sang dans la scène où il la poignarde, et donc aussi des entretiens très sincères d'ailleurs avec Svetlana Thoma et le compositeur Eugène Doga, donc en version originale sous-titrée. Donc franchement, c'est une très très belle édition que nous propose Potemkin. Pour non moins un film eh bien incontournable dans le cinéma soviétique. Voilà.
Potemkin soigne ses éditions.
Très souvent, très souvent. On se souvient de Guerre et Paix, très très beau coffret à l'époque des fêtes de fin d'année.
C'est magnifique.
On poursuit, là on l'a vu récemment donc au cinéma, enfin récemment, il y a quelques mois dirons-nous, le dernier film de Bertrand Bonello avec Léa Seydoux, Georges Mackay, Goulagy Malanda, et donc coproduction franco-canadienne pour ce film La Bête, film dramatique qui raconte l'histoire d'une jeune femme dans un futur proche dominé par l'intelligence artificielle qui purge ses émotions en replongeant dans ses vies antérieures. Et donc, pour cette libre adaptation du roman de La Bête dans la jungle, Bertrand Bonello s'autorise un surprenant mélange des genres entre films de costumes, qui est plutôt réussi d'ailleurs, pour les séquences à la Belle Époque, et aussi de science-fiction pour celles situées en 2044, concentrant tout entier son intrigue autour de l'actrice Léa Seydoux, tour à tour pianiste de renom à Paris et actrice mannequin à Los Angeles. Mais quand même, si les amateurs du cinéma conceptuel, cérébral et symbolique de l'auteur seront en terrain connu, eh bien les autres risque fortement de rester de marbre face à cette quête existentielle, quand même assez hermétique, il faut bien le dire, et déroutante, jusqu'au générique de fin, uniquement accessible en scannant un QR code. Autant vous dire que ça, c'est relativement glacial.
C'est vrai que tu étais assez partagé à l'époque du film. Hein, quand tu
t'es et je suis toujours. Je vous mets en garde quand même, hein, pour ceux qui voudraient découvrir ce film. Je pense qu'essayer peut-être de pouvoir le visionner avant d'en. Éventuellement, si vous envisagez d'en faire l'achat, eh bien, essayez quand même de le visionner avant. Si vous ne l'avez pas vu, parce que vous risquez d'être quand même assez refroidi.
Voilà. Après, bon, si vous êtes fan de Léa Seydoux, je crois que là, par contre, c'est un must-have, comme on dit.
Oui. C'est vrai qu'il n'y a pas un plan où elle n'est pas présente. Ouais. Et c'est vrai que, on va dire, plastiquement parlant, Bertrand Bonello lui rend bien hommage, en tout cas.
Très bien.
Eh bien, si on parlait de films, je dirais, asiatiques, et aussi de nos amis Spectrum, parce qu'ils sont incontournables.
Ah bah je sais que c'est un peu ton dada, les films asiatiques, notamment Spectrum. Hein, je sais que tu aimes beaucoup ce label.
Eh bien, là, pour un film de 2020, 2022 et 2016, parce qu'en fait, c'est une édition, alors c'est pas combo, mais il y a deux films, en fait, voilà. Et alors, le premier, c'est Retour à Séoul, et l'autre, c'est Diamond Island. Donc, c'est un coffret destiné au réalisateur David Chou. Et on y retrouve Park Ji-min, Oh Gwang-brok, Gugan, Sobon Yeon, Chronic Nove et Madeza Chem. Et donc, alors là, par contre, c'est une production assez vaste, hein, parce que on y retrouve la France, l'Allemagne, la Belgique, la Corée du Sud, la Roumanie, le Cambodge, le Qatar. Vous voyez, voilà, c'est quand même relativement éclectique. Et donc, ça raconte l'histoire, pour Retour à Séoul, d'une jeune femme adoptée toute petite par un couple de Français qui se rend sur un coup de tête en Corée du Sud à la recherche de ses origines. Et pour le deuxième film, eh bien, venu travailler sur un chantier immobilier insulaire de luxe, eh bien, un jeune Cambodgien découvre aux côtés de son frère les extravagances de la jeunesse dorée de Phnom Penh. C'est un véritable choc des cultures, des mentalités et de l'identité inspirée par une histoire vraie. Le film d'ailleurs aborde son sujet en balayant en fait les étiquettes et les poncifs, parfois avec brutalité, le plus souvent avec une grande liberté d'exécution. C'est la première fiction du réalisateur pour Diamond Island, qui obtient le prix de la semaine de la critique à Cannes au festival de Cabourg. Diamond Island, dépeint dans une sorte de vision hypnotique et chimérique l'illusion d'un futur utopique inaccessible à ceux qui en forgent la création. Voilà un petit peu ces deux films, et franchement ça me donne vraiment envie, parce que c'est cette, je dirais, nouvelle vague du cinéma coréen est très très intéressante, en sachant que à chaque fois, eh bien, esthétiquement et techniquement parlant, eh bien, vous avez véritablement un excellent remastering des films chez Spectrum. Donc il faut vraiment les découvrir. À savoir, et je le reprécise à chaque fois, que toutes ces éditions Spectrum sont limitées, me semble-t-il, à 1000 copies aussi. Donc ça peut aller très très vite, étant donné que ce sont des éditions destinées aussi à l'international. Donc ça peut aller très très vite. On se rappelle d'une édition pour le film Shin Godzilla, qui a été épuisée avant même qu'elle soit parue.
Ah oui, effectivement.
Alors, autre film, et là un film français de Joachim Lafosse, qui est passé un petit peu inaperçu mais qu'on avait apprécié dans Cinéscopie, film dramatique avec Daniel Auteuil, Emmanuel Deveau, Mathieu Gallou. Le seul regret pour cette édition, c'est qu'il n'y a qu'une édition DVD, il n'y a pas de haute définition pour ce film qui s'intitule Un silence, qui raconte la déchéance d'un avocat renommé dont le passé pédocriminel refait soudain surface. Sans la moindre image explicite, et c'est ça en fait l'exploit de ce film, eh bien, le récit plonge ses personnages et le spectateur avec eux dans un cauchemar digne de 10 films d'horreur superposés. Donc, en observant les répercussions du drame sur toute une famille, une mère qui est confrontée à 30 ans de déni, un bouleversant ado victime collatérale, il évoque avec une acuité assez exceptionnelle le poids du non-dit et la tardive mais indispensable libération de la parole. Supérieurement interprété, l'ensemble n'est pas de tout repos, et une séquence d'ailleurs de slow fait même très fort en termes de malaise. Vous voilà un petit peu prévenu, et c'est l'éditeur Blackout qui vous le propose à la vente dans une édition tout à fait correcte techniquement pour une édition standard en termes de définition. Donc franchement, ça vaut vraiment le détour. Moi, je vous invite à découvrir ce film si vous ne le connaissez pas. Et puis, pour terminer, on va rester peut-être dans le cinéma d'auteur, avec un autre film assez intéressant, film dramatique, qui est aussi une large coproduction, le Chili, l'Argentine, la Grande-Bretagne, Taïwan, l'Allemagne, la Suède, la France, Danemark. Film déconseillé au moins de 12 ans, film réalisé par Felipe Galvez Aberle, avec Sam Spruell, Mark Stanley, Marcello Alonso. Le film s'appelle Les Colons, l'action se passe en République du Chili au début du siècle dernier. L'histoire d'un jeune métis autochtone qui accompagne un soldat britannique et un mercenaire américain chargé de déposséder ses compatriotes de leur terre afin d'ouvrir un passage vers l'Atlantique. Et donc, c'est un regard désabusé, brutal et sans concession sur les dessous de la construction d'une nation naissante où la violence, la fourberie, la lâcheté et la barbarie le disputent à la beauté d'environnements sauvages gigantesques et où toutes les méthodes apparaissent acceptables du moment qu'on y met les formes. Voilà. Et donc on le doit au même éditeur qui est Blackout aussi, qui vous le propose. Et là encore, sans doute que peut-être l'éditeur ne croit pas du tout à la haute définition, eh bien il le propose là aussi exclusivement en DVD, dans une belle édition. Techniquement, il n'y a rien à redire. Et donc, il y a aussi, en bonus, l'interview du réalisateur, de la co-scénariste, qui explique notamment le choix du ratio d'image et aussi, de la juxtaposition de la version française et de la version originale sous-titrée qui sont mêlées. Voilà. Donc, je vous invite, là encore, à découvrir ce film assez peu connu parce que tout simplement il n'a pas eu tellement sa chance sur le grand écran. En tout cas, je n'ai pas souvenir qu'il ait été projeté sur la région.
Eh bien, merci Laurent pour ta sélection de DVD Blu-ray. Cette semaine, vous avez eu un programme particulièrement riche en ce mois de juin, voilà, qui précède, je pense, effectivement, une période un petit peu plus calme pour juillet-août. Il va y avoir des choses intéressantes qui vont arriver. Hein. On aura très prochainement, alors on n'a pas de... Si on a la date, ce sera le 5 juillet, l'arrivée d'un film que j'avais découvert à Cannes, au Festival de Cannes en 1987. Un film assez kitsch, on pourrait même dire nanardesque, puisqu'il s'agit des Barbarians. Un film de Ruggiero Deodato avec ces deux acteurs là, David et Peter Paul, qui en fait sont des culturistes et qui jouent les rôles titres, hein, les rôles de ces barbares, les Barbarians. Ouais, c'est un film que j'avais vu en salle avec l'équipe de l'Écran Fantastique, vous savez, la revue de cinéma L'Écran Fantastique. Ils étaient tous bidonnés, quoi, et ça se comprend à la vision de ce film. Mais qui a son charme. C'est le genre de film qu'on regarde entre potes en mangeant des pop-corn. La musique est sympa, en plus c'est Pino Donaggio qui s'y était attelé, et ça va sortir chez Sidonis Calista le 5 juillet. Voilà, c'est mon petit bonus pour ce soir. Eh bien, nous allons faire une petite pause musicale, bien sûr, alors avec, je ne sais pas ce que Laurent nous a concocté.
Eh bien, une grosse production à l'époque, hein, cinéma d'aventure. Film américain 1999, c'est la trilogie en fait de
Stephen Sommers, je crois, qui a fait
Stephen Sommers avec, ouais, Brendan Fraser et Rachel Weisz, ouais. C'est La Momie.
La Momie, le retour. C'est La Momie, parce qu'après il va y avoir Le Retour de la Momie. Mais voilà, ouais. Là, c'est La Momie. Quoi.
C'est La Momie. La musique est signée Jerry Goldsmith. Oui. Et donc, on était assez friands de ce cinéma-là, qui est aujourd'hui un petit peu absent quand même, un cinéma d'aventure. On regrette un petit peu parce que voilà, c'est assez dépaysant.
Oui, oui. Il y a un esprit Indiana Jones dans ce film.
C'est vrai. Et c'est, ma foi, c'était assez réussi. Même le retour de la momie, franchement, voilà, c'était de très très bonne qualité. Alors, on fait appel peut-être aux éditeurs parce que il y avait en tout cas pour les fêtes de fin d'année, une réédition, et ça a été purement et simplement annulé, on ne sait pas pourquoi, dans très haute définition. Donc peut-être ils attendent peut-être une suite, peut-être qui est en préparation et qui va peut-être annoncer, voilà, insérer dans un coffret, je ne sais pas. En tout cas, c'est un petit peu bizarre que voilà, purement et simplement, ces éditions-là soient supprimées. Alors, le pitch, si vous ne connaissez pas, on est en 1719 avant Jésus-Christ, et pour avoir osé ravir sa fiancée au pharaon, le grand prêtre Imhotep est momifié vivant et enseveli dans une crypte secrète d'Amunaptra. Mais son cœur bat toujours et la momie attend l'heure de sa libération. Et en 1923, l'aventurier O'Connell découvre les ruines d'Amunaptra et la malédiction d'Imhotep va pouvoir se réaliser.
Oh là là,
je t'en dis pas plus, mais bon.
C'est du grand spectacle, hein, parce que là,
très grand spectacle, très très grand spectacle, ouais. Et un habillement musical. Là encore de haute volée par l'ami Goldsmith, oui, qui était aussi, je dirais, un des fervents du cinéma d'aventure. Hein.
Ah oui, tout à fait. Et puis là, je crois qu'il a, comme sorti la grosse artillerie, hein, sur ce film. Et alors, il a aussi écrit quand même un thème tout à fait splendide, hein. Même deux. Hein, il y a vraiment de très beaux thèmes dans cette partition, assez musclé par ailleurs à certains endroits.
Oui, et on va écouter d'ailleurs. Un extrait qui est assez musclé, qui est le final en fait. Et vous allez voir, on retrouve, chaque compositeur a sa marque, et en particulier Goldsmith, on le reconnaît beaucoup à sa qualité dans les percussions. Écoutez, vous allez voir, c'est vraiment de l'orfèvrerie au millimètre près. Et donc peut-être qu'un jour d'ailleurs on vous passera, ça serait bien qu'on vous passe un petit extrait pour vraiment vous rendre compte du travail d'orfèvre sur la percussion, sur la musique du premier film La Planète des Singes, qui est vraiment de toute beauté.
Ouais, on pourrait faire ça en effet.
Voilà, on écoute le final de La Momie et on se retrouve après pour parler de la sélection des films de la semaine. les films de la semaine, ce soir.
Eh bien, ce soir, nous allons parler de Rokia et de La Petite Vadrouille. La Petite Vadrouille, un film de Bruno Podalides. Alors, on va commencer, je ne sais pas, on va peut-être commencer par La Petite Vadrouille, Laurent, et on terminera par Rokia. Alors, Rokia qui n'est plus, je semble, il n'est plus à l'affiche sur Limoges, mais qui tourne, hein, il tourne dans les salles en périphérie de Limoges. Donc, vous allez pouvoir retrouver ce film qui est encore en exploitation. On va commencer avec cette Petite Vadrouille, nouveau film de Bruno Podalides, avec Daniel Auteuil, Sandrine Kiberlin, Denis Podalides, entre autres. Et alors, Bruno Podalides, qui avait fait un film, son précédent film, c'était un film qui se passait dans l'univers des agents immobiliers, me semble-t-il. Alors, le titre, d'ailleurs, m'échappe, là, mais voilà, enfin, peu importe. Mais c'était, bon, il s'était un petit peu égaré, c'était pas très convaincant. Et il revient avec une comédie qui lui ressemble davantage, une comédie assez solaire, d'ailleurs, Cette Petite Vadrouille. Alors, l'histoire de Justine, interprétée par Sandrine Kiberlin. Justine qui, avec son mari, pour résoudre leurs problèmes d'argent, va monter une arnaque, organiser une fausse croisière romantique pour Franck, un gros investisseur qui cherche à séduire une femme. Il faut savoir que ce fameux Franck, c'est aussi le patron de Justine, hein, puisqu'il il a une boîte, et Justine travaille dans cette entreprise. Voilà, donc Franck, un jour, demande à Justine de lui préparer un week-end de rêve Alors, il lui confie une enveloppe de 14 000 euros, en fait, ça commence comme ça. Il lui dit, voilà, Justine, je vous donne 14 000 euros, et puis voilà, vous m'organisez un week-end de rêve, parce qu'en fait, voilà, je voudrais faire plaisir, j'ai rencontré une femme qui est vraiment formidable et je voudrais lui faire plaisir. Donc c'est à Justine de préparer ça. Et alors elle se dit, bah tiens, mais bon, avec son mari, 14 000 euros, on pourrait peut-être en garder la moitié. Et puis bon, du coup, ils vont organiser une croisière.
Le mari d'ailleurs est un petit peu plus vénal qu'elle.
Le mari surtout.
Oui, parce que c'est à l'origine, c'est son idée d'ailleurs.
C'est son idée de garder la moitié de l'argent, d'organiser alors une croisière fluviale, effectivement, parce qu'on est sur un canal. Alors, on ne sait pas trop exactement. Le film a été tourné en partie en Bourgogne-Franche-Comté, donc on peut penser que c'était aussi tourné là-bas, peut-être aussi dans le sud de la France. Et donc voilà, Daniel Auteuil qui embarque sur ce bateau avec alors, cette femme. Qui c'est cette femme finalement? Eh bien, c'est Justine. Elle l'apprend. Hein. Elle l'apprend au dernier moment. Et oui, parce que voilà, Franck est amoureux de Justine. Elle ne le lui avait pas dit. Il voulait lui faire la surprise, mais on n'en dit pas plus parce que faut découvrir un petit peu toutes les péripéties qui accompagnent cette croisière. Voilà, c'est un petit peu le pitch de départ. Voilà. Alors, c'est une comédie qui prend son temps, puisqu'en fait, au rythme hein, de cette croisière, là, d'écluse en écluse.
Mais bon, c'est un petit peu aussi le cinéma de Podalides. Hein. C'est un petit peu ce. Alors. C'est une sorte de fable, mais c'est vrai que on en parlait hors antenne. Ça m'a fait penser à un film aussi que Bruno Podalides avait réalisé sur le monde maritime, Liberté Oléron, qui était ma foi aussi assez croustillant. Cet univers de Podalides, c'est aussi l'univers Lubitsch, mais c'est aussi moi, ce qui m'a marqué dans ce film-là, j'ai pensé à un grand réalisateur français, c'était Jacques Tati. Parce que par moment, il y a quand même, on a l'impression qu'il y a quand même cet hommage à Tati, ce comique un petit peu de situation, sans pour autant avoir des dialogues.
C'est-à-dire qu'on a parfois l'impression que les événements arrivent par inadvertance ou de manière presque improvisée. Non, tout est réglé à l'avance, hein, mais et ce qui donne un certain naturel finalement au film. Mais moi, tu sais, j'ai pensé à un autre cinéaste, j'ai pensé à Robert Derry. Et j'ai pensé au film de Robert Derry, qui est certain qui se passe d'ailleurs sur l'eau, et je me suis dit, on se croirait un peu que c'est la bande des Branquignoles, un petit peu, tu vois.
Oui,
c'est
oui.
Un petit peu ça.
Ouais, on peut penser déjà comme ça, au petit baigneur.
Oui, entre autres, voilà, il y a
la belle américaine. Mais oui, c'est vrai qu'on peut penser.
C'est vrai qu'il y a un peu de Tati, un peu de Derry là-dedans. Robert Derry aussi, ouais.
C'est aussi l'univers quand même quand on voit pas mal. Enfin, quand on voit des quelques films de Podalides, on est quand même toujours dans ce registre-là. Mmh. Franchement, enfin, en tout cas, c'est un film qui, pour ma part, qui fonctionne parce que j'aime bien l'univers de Podalides. Je trouve que c'est souvent bien écrit.
Ouais, il y a toujours un ton décalé aussi.
Ouais, ouais. Mmh. Et aussi, ce qui transparaît quand même dans le film, c'est que les acteurs s'en donnent à cœur joie et on sent qu'ils sont heureux quand même d'être là. Mmh. Et ils ont vraiment un grand plaisir de jouer les personnages. Et franchement, c'est aussi, ça fait partie de la réussite du film, hein, parce que il y a quand même le bouche à oreille qui fonctionne. Il y a du monde qui va voir le film parce que tout simplement, c'est une comédie intelligente. Et parce que tout simplement, derrière, il y a un gros travail d'écriture. Ça a l'air simple comme ça à le voir, mais bon, il y a une mise en scène qui est quand même assez millimétrée. Et donc, somme toute, enfin, moi, en tout cas, j'ai été grandement enthousiasmé. Oui, alors, oui. Il y a quand même forcément des points négatifs, mais là, pour le coup, en tout cas, la balance, moi, est largement positive, même si, bien sûr, il y a quelques, je dirais, quelques maladresses, mais somme toute, vraiment, tous les acteurs, même les acteurs qui sont un petit peu moins connus, comme Isabelle Candelier, Jean-Noël Brouté, qui sont vraiment excellents dans le film.
Ah oui, oui. C'est un film solaire, hein, parce que, d'une part, parce qu'il y a une très belle photographie, c'est Patrick Blossier. Hein. Patrick Blossier, c'est un excellent chef opérateur, c'est lui qui signe la photo du film. C'est un film solaire aussi, parce qu'effectivement, tu l'as dit, on voit que les acteurs ont plaisir à jouer ensemble. Ça me fait penser à ces films. Donc, chez Robert Derry, il y avait une borne. On retrouve cette idée de la troupe aussi chez Guédiguian, par exemple. Hein. Et on retrouve effectivement, on a plaisir à retrouver aussi l'univers de Bruno Podalides, parce qu'on retrouve aussi ses comédiens. Et ça, c'est assez plaisant. Et donc, on est en présence de ce qu'on appelle aujourd'hui un feel-good movie, c'est-à-dire que on est heureux avec les personnages, on est heureux d'être sur ce bateau, voilà, et vraiment on passe un bon moment, c'est-à-dire que, allez, ça dure 1h30 en plus, hein, le film n'est pas très très long, hein, mais du coup, il y a un côté qu'on ressort de là un petit peu, on sort un petit peu de nos soucis quotidiens. Alors c'est quand même, il y a quand même un thème évidemment, parce que c'est une arnaque qui est montée, hein, donc on essaie de créer une illusion. Hein. Il y a un côté aussi comédie sociale, puisque effectivement, tous ces arnaqueurs, enfin ces petites gens sont des gens tout à fait sympathiques, et puis cet entrepreneur plein aux as. Alors, lui peut apparaître totalement exécrable, mais on ne va pas en dire davantage, parce que bon, finalement, il a quand même du cœur, et puis, est-ce qu'il est vraiment dupe? On ne sait pas. On ne va pas vous spoiler, divulgâcher le film. Voilà, donc c'est vrai que c'est... Et moi, ce que j'ai aimé aussi, justement, dans ce film, c'est qu'on prend le temps. Voilà, et puis c'est, voilà, l'humour, il arrive comme ça, tout en discrétion, avec ses, justement, tout en décalage. Voilà. Et on sent que Bruno Podalides, suivant, il a une obsession quand même pour les bateaux, hein, parce qu'il avait fait aussi comme un avion, il était question de bateau, un voyage en canoë et kayak, je me souviens, dans ce film. Voilà. Alors, quand même, bon, moi, honnêtement, j'ai passé un bon moment devant ce film, mais j'ai quand même, je suis un petit peu moins enthousiaste tout de même que toi. Je trouve que, des fois, ça tourne un petit peu à vide, et puis, je trouve qu'au finish, le film ne raconte pas grand-chose. On a passé un bon moment, c'est léger, mais j'ai peur. Ce que j'ai peur, c'est que ce film, dans un mois, je m'en souvienne plus. Donc, tu vois ce que je veux dire? Donc, j'ai pas. Je trouve enfin, que.
Je crois que. Je crois que. Bruno Podalides, bon, il est issu en grande partie du théâtre au départ.
Et ça se ressent d'ailleurs.
Et ça se ressent.
À un certain moment du film, en effet.
Et donc, c'est pas évident de passer du théâtre au cinéma, et il faut bien sûr éradiquer toute la statique du théâtre pour bien sûr ne pas créer l'ennui. Ce d'autant qu'en plus, dans une comédie, ça serait quand même un petit peu dommage.
Ouais.
Mais là, pour le coup, il n'y a peut-être pas forcément une recherche d'un message particulier à travers ce film. C'est quelque part, et c'est aussi, je dirais, l'émission du 7e art, c'est aussi de créer aussi du dépaysement, et je crois qu'il y réussit. Alors je défends.
Oui, c'est une fantaisie.
C'est une fantaisie. Et puis bon, comme on parle de fantaisie, il y a beaucoup de fantaisies au cinéma. Elles sont plus ou moins bien réussies. Et celle-ci est plutôt une qui sort du lot. Et même si elle reste pas dans les mémoires, elle a en tout cas accompli une mission. C'est faire passer un bon moment. Je pense que je crois que ce film a aucune prétention par rapport à cela. Et donc de ce fait, je pense qu'il faut le prendre comme il est, c'est-à-dire on passe 1h36 de bon moment. Mais c'est vrai, la déception, en tout cas pour ma part, c'est un petit peu la même que la tienne, peut-être pas au même degré, mais c'est que il y a certain moment une sorte de redite, c'est-à-dire qu'en fait il n'y a pas quelque chose qui relance, on va dire, l'histoire un petit peu. On en parlait hors antenne aussi de cette rythmique et ce timing un petit peu à la Houri, parce que c'est quand même, dans le cinéma français, c'est quand même la référence au jour d'aujourd'hui. Bon nombre de films de Gérard Houri ont vraiment encore et encore un succès phénoménal. Mais quand on regarde plus précisément, je dirais, la structure de ces films, c'est extrêmement travaillé, et il y a toujours quelque chose qui relance, en fait, l'histoire. Mmh. Et là, c'est vrai que, quelque part, au bout d'un, on va dire, des deux tiers du film, en tout cas, moi, je l'ai ressenti comme ça, il y a quand même un petit essoufflement. C'est pas que on est pressé d'en finir, mais c'est que voilà, il manque, je dirais, l'ossature qui permet de vraiment d'avoir une grande fluidité du film. Voilà.
Avec une fin. Je sais pas. Bon, après. Est-ce qu'elle est satisfaisante, cette fin, peut-être ? Je ne sais pas.
On peut penser que c'est assez calqué sur le monde du théâtre aussi, hein. Genre de fin. En tout cas, moi, je ne serais pas extrêmement, critique envers ce film, parce que je crois que ça a été fait sans véritable prétention.
Oui, disons que le film est sympathique, mais peut-être que il est quand même un petit peu en deçà de mes attentes. Je m'attendais à quelque chose peut-être un petit peu plus délirant, dans le fond. Je trouve que le film reste un petit peu sage, un peu trop à la surface, peut-être, c'est le cas de le dire, d'ailleurs, dans ce film. Mais bon.
Peut-être que la prochaine fois, ce sera un film sous les sous-marins.
Si Bruno, tu nous entends, ça peut être une bonne idée, finalement.
En tout cas, la grande surprise, si on parle vraiment du casting au niveau, c'est de retrouver Daniel Auteuil dans un registre qu'on ne connaissait beaucoup moins ces derniers temps, c'est-à-dire le retour un petit peu à la comédie. En tout cas, à travers ce film, on le retrouve en très grande forme.
Ah bah oui, tout à fait. C'est-à-dire qu'on aurait bien vu Bourville un peu dans le rôle, finalement. Ou dans le rôle du mari, d'ailleurs. C'est la petite vadrouille. Mais on va changer de style, maintenant, d'ambiance, avec un film de genre français, d'ailleurs, je crois, Rokia, avec une actrice iranienne, d'origine iranienne. C'est Golshifteh Farahani, me semble-t-il, qui est l'actrice principale de ce film, Laurent, que tu as vu. Alors moi, je n'ai pas vu, je vais t'écouter attentivement.
Alors le film, c'est bien un film français, de Saïd Beltibia, à côté de cette actrice iranienne, eh bien, nous avons Amine Zaroui et Jérémy Ferrari, C'est un premier long métrage de Saïd Belkhtibia qui s'intitule.
Ah, tu t'en sors bien.
Rokia, parce que je sais pas si
on, on a dit le titre. Ouais.
Et donc, qui a imaginé en fait un thriller au sujet assez original puisqu'il aborde le recours croissant à la sorcellerie et aux sciences occultes qui sévit dans la France d'aujourd'hui. Et donc, en se centrant sur l'histoire en fait d'une femme indépendante qui se livre au trafic d'animaux exotiques, mais qui se fait accuser de sorcellerie par les habitants de son quartier et se voit séparée de son fils, eh bien le cinéaste opte pour le film de traque et le récit à suspense. Mais je dirais que à force de vouloir mêler une grande quantité de sujets, le business de l'ésotérisme, les dérives terrifiantes des réseaux sociaux, la détresse sociale contemporaine, le combat d'une mère pour son enfant, eh bien, le film perd, on va dire, sa tension narrative en chemin et s'éparpille. C'est vrai que c'est quand même relativement dense, étant donné que le film est aussi long que La Petite Vadrouille. Donc pour vous dire c'est relativement,
une heure et demie, quoi.
Voilà, c'est relativement dense pour quelque chose qui est relativement court. Mm. Et donc, je dirais que quand on connaît un petit peu la filmographie, parce que j'ai vu quand même pas mal de films avec Goldshifté Farami, eh bien, ce thriller qui témoigne, je dirais, de l'investissement de l'actrice, eh bien, il nous laisse quand même malheureusement à distance et n'ensorcelle guère le spectateur. Mmh, on est quand même relativement distant de cette histoire, alors que vraiment, il y avait matière à faire quelque chose vraiment très je dirais de très tendu, ouais, avec un suspense au cordeau. Et là, pour le coup, c'est un film qui hésite, ouais, entre un film dramatique, un thriller, un témoignage.
Finalement,
la condition féminine. Ouais,
Ce qui tient peut-être le film, c'est la prestation de Goldshifté Farhani,
peut-être. Entre autres, oui, qui irradie le film, oui.
Et la photographie, parce que l'affiche a l'air, dans l'impression qu'il y a une belle photo dans le film.
Oui, mais c'est une photo qui, somme toute, ne m'a pas véritablement,
pas marqué en particulier.
Non. Franchement, le film est relativement sombre.
D'accord.
Sur son intégralité. L'actrice plastiquement est très jolie, mais là pour le coup, ça lui rend pas hommage parce que le sujet fait que voilà, ce n'est pas, on va dire, le sujet du film. Mais franchement, oui, ce qui est le plus, je dirais, handicapant pour ce film-là, c'est que le réalisateur met à distance en fait le spectateur, et donc c'est relativement, en tout cas, moi je l'ai ressenti comme ça, relativement froid, alors que il y avait quand même ce côté très humain de, je dirais, entre la mère et son fils. Et donc c'est assez mal retranscrit dans le film parce que tout simplement le réalisateur court après plusieurs lièvres, et ce qui fait que voilà, il a du mal un petit peu à équilibrer son film. Ça part un petit peu dans tous les sens, c'est un petit peu dommage parce que le départ du film est assez intéressant. On part dans une traque et donc on est parti dans quelque chose un petit peu de fantastique mais aussi un peu thriller, mais après on reste rapidement sur sa fin. C'est un petit peu dommage.
Bien, eh bien, écoutez, le film est sans doute encore à découvrir, hein, puisqu'il tourne en périphérie. Et uniquement, alors, vous pouvez aller le voir déjà pour cette actrice iranienne formidable, Goldshifté Farhani. Et bon, effectivement, un film assez dense, d'après Laurent, mais effectivement, qui a tendance peut-être à se disperser un petit peu. Et puis, si vous voulez, après un film quand même assez, quand même un film assez stressant, hein. Il y a une ambiance un peu oppressante dans ce Rokia. Allez vous détendre avec cette petite vadrouille, un film bien de saison. Voilà, vous avez, vraiment, c'est le feel good movie du moment. Allez-y, vous ne serez pas déçus. Et puis voilà, pour faire une journée cinéma super sympa, allez voir Le Petit Truc en Plus d'Artus et puis La Petite Vadrouille de Bruno Podalides. Même si nous avons émis quelques réserves concernant, en ce qui me concerne en particulier, La Petite Vadrouille, voilà, que j'attendais un petit peu plus haut, voilà, mais le film reste tout de même assez plaisant. On fait une petite pause en musique avant de vous parler des films qui seront à l'affiche à partir de ce mercredi dans nos salles de cinéma. Et je me tourne vers Laurent qui est en train, voilà, de s'affairer derrière sa console pour nous proposer la musique de quel film? Alors,
eh bien, la musique d'un film que j'ai adoré, en fait, hein. C'est ce film, d'ailleurs on en a parlé, me semble-t-il, je crois récemment, lors d'une ressortie, une réédition.
En Blu-ray,
me semble-t-il. Ouais. C'est ce film de David Lynch, The Straight Story, une histoire vraie.
Ouais.
Qui a surpris un peu tout le monde d'ailleurs, hein, parce que
on n'attendait pas David Lynch sur ce type de film,
voilà,
sur cette histoire.
Et donc là, pour le coup, c'est une belle surprise. 1999, eh bien, l'histoire de ce vieillard décide de partir faire un road movie, faire des rencontres. En enfourchant une tondeuse à gazon.
Ben oui. c'est un pitch à la Bruno Podalides aussi, tu vois. Ouais, il pourrait le faire, ça. Ouais.
Alors on va pas, si vous connaissez pas le film, on va pas spoiler.
Non,
parce qu'en fait il y a une raison pour laquelle cet homme, voilà, eh bien, va parcourir plusieurs états pour.
C'est un film très émouvant, oui, avec cet acteur Richard Farnsworth, oui, qui est absolument prodigieux.
Oui. Et donc là, franchement, là, ça a été vraiment un uppercut.
Oui.
On se rend compte que Lynch est capable aussi de faire vraiment dans la tendresse.
Oui.
Un film extrêmement humain, en tout cas. Moi, je l'avais ressenti à l'époque comme ça, sa sortie en salle, un excellent moment.
Et assez dépouillé, c'est-à-dire qu'il y a une forme de simplicité dans la mise en scène.
C'est tout à fait. Mm. Film assez improbable, hein, parce que quand on lit le pitch, eh bien, on se dit, mais qu'est-ce qu'on va pouvoir sortir de ce film? Et franchement, un film extrêmement riche extrêmement émouvant. Donc, si vous ne le connaissez pas, eh bien, voilà, c'est aussi les qualités du cinéma, c'est vous émouvoir, et ça fait partie de ces films-là.
Donc franchement, on peut se procurer le film qui vient de ressortir en Blu-ray.
Tout à fait. Et donc la musique était signée par Angelo Badalamenti, qui est le compositeur attitré de Lynch. On l'a vu dans Twin Peaks, mais c'est quelque chose. Blue Velvet.
Je crois moi je l'avais découvert avec Blue Velvet, en effet.
Voilà. Donc vraiment, c'est je dirais, voilà, c'est l'alter ego musical de Lynch. Et donc là,
il nous a quitté d'ailleurs il y a peu.
Hein. Ouais. Et là, pour le coup, c'est aussi un petit peu la surprise. Parce que forcément, ça va en adéquation quand même avec l'atmosphère du film. Et donc, on va vous proposer un thème qui est vraiment super. Ça me fait penser un petit peu, d'ailleurs, à travers ce thème-là, parce que ça n'a rien à voir, mais on dirait dans le concept, à la musique qu'avait fait Clint Eastwood pour Impitoyable. Enfin, le thème à la guitare, oui, on retrouve dans ce thème-là, quelques notes de structure musicale aussi d'Impitoyable, bien qu'Impitoyable a été, me semble-t-il, composé après une histoire vraie. Donc voilà, on écoute cela, ça s'appelle le thème de Rose.
Ouais, juste une petite précision, c'est que la musique vient de ressortir chez Intrada Records, label américain. Donc on peut se procurer cet album chez Intrada. Il faut aller sur internet. Hein. Attention, c'est un peu onéreux chez Intrada.
Car oui, c'est un label américain et c'est
avec les frais de port.
Là, il faut un petit peu casser à chaque fois la tirelire.
Ouais.
Donc tout de suite, le thème de Rose et on se retrouve pour parler des sorties. Et mercredi, qu'est-ce que nous allons pouvoir voir sur nos écrans? Tout de suite, donc une histoire vraie. Musique d'Angelo Badalamenti pour le film de David Lynch, A Strict Story, une histoire vraie, avec Richard Farnsworth dans le rôle principal, un très très beau film, et une musique qui ne l'est pas moins et qui est disponible à nouveau chez nos amis américains Intrada Records. Et bien maintenant, c'est le moment de vous parler des films qui vont sortir dans nos salles de cinéma ce mercredi 12 juin et à nouveau pas mal de titres. Hein, ah oui, on approche la vingtaine de sorties, donc ce qui est énorme pour donc un mois de juin. Mais bon, peut-être aussi que le rythme s'accélère un petit peu parce qu'on s'approche quand même de la fête du cinéma. Qui est donc fin juin
30 juin je crois, c'est c'est 30, à partir du 30 juin en effet.
Et donc il faut renouveler peut-être la programmation et donc là pour le coup ce qu'on va peut-être faire parce que pour essayer d'être un petit peu plus rapide parce qu'il y a des films sur lesquels on n'a pas véritablement de précision donc on va faire un tour d'horizon assez rapide sur ces films-là. Donc, à commencer par le dernier film de Léos Carax, C'est pas moi, où on n'a pas véritablement d'informations. Mmh. Il y a aussi le film d'Ali Khatami, Coursier de nuit. Le film Crépuscule de Georgie Féer, Donc là aussi, on n'a pas grand-chose dessus. La dernière relique de Mariana Katt, les enfants rouges de Lofty Achour. Il y a aussi les guetteurs d'Ishana Night Shyamalan. C'est le dernier film, mais on voit déjà quelques bandes annonces.
Oui, là, je pense que c'est la grosse sortie de la semaine.
Voilà.
Film produit par M. Night Shyamalan, d'ailleurs. Et avec Dakota Fanning dans le rôle principal. Ça s'annonce plutôt pas mal. La bande annonce est intrigante et donne vraiment envie de voir le film. Avec une très belle affiche, d'ailleurs.
Mais comme assez souvent sur les derniers films de Shyamalan. Alors, c'est vrai qu'on assiste quand même sur les derniers films à, comment dire, un retour d'une qualité disparue.
Oui, sur le dernier film qu'il avait fait là, sur la fin du monde, c'était pas mal.
C'était pas mal. Donc voilà, on espère beaucoup de ce film. Ensuite, il y a aussi un film qui s'intitule AQ, La guerre des poubelles, de Suzumu Mitsunaka.
C'est un dessin animé. IQ est très connu tous ceux qui aiment les mangas, ils connaissent très très bien, et les animés, ils connaissent bien cette série IQ. C'est assez attendu, le film est assez attendu. Je signale d'ailleurs au passage qu'actuellement il y a un très bel animé qui passe en salle, c'est Tunnel to Summer. Ouais, on n'en a pas parlé.
On en a parlé lors de sa sortie.
On avait peut-être dit un mot, ouais.
Et donc, autre film, où on n'a pas forcément beaucoup de précisions, c'est Les Passeurs de Jacques Deschamps. Théa Chappie de JR et Vas-tu renoncer de Pascal Baudet. Voilà.
Théa Chappie, mais JR, c'est le photographe. Il avait fait le film avec Visage Village, je crois que c'est le titre, avec Agnès Varda. Il a fait ce film-là. Il fait des photos de très grand format, JR.
Alors ensuite, nous avons une sortie de Una Gunjak, c'est Excursion, donc qui se situe dans le milieu scolaire. C'est une coproduction de la Bosnie-Herzégovine et de la Croatie. Comme si le milieu scolaire était un précipité de mots d'une société. Et ensuite, nous avons La Gardave de Thomas et Dimitri Lemoine, Gloria de Margherita Vicario.
Oui, alors Gloria, ça a l'air très intéressant. C'est consacré aux femmes compositrices, me semble-t-il. C'est parce que ces femmes, on a l'impression que la musique classique n'a été écrite que par des hommes. C'est pratiquement le cas, mais c'est vrai qu'il y a dans l'ombre, il y avait des femmes qui écrivaient.
Oui. Et là, c'est l'histoire, d'un orphelinat de Venise où en fait il y a des femmes qui sont en fait, une sorte de pensionnat de jeunes filles qui ont une formation musicale de très haut niveau. Et donc, forcément, vous pouvez imaginer que à cette époque, elles n'avaient pas forcément droit à briller. Et donc, elles étaient là pour travailler, mais en fait, pour n'avoir aucune reconnaissance, forcément.
Oui, à part broder et faire la cuisine. Mais en fait, c'est finalement, le sujet a l'air assez passionnant. Je pense que ce Gloria mérite certainement d'être vu.
Oui, je pense.
Moi, ça m'intéresse, perso. Donc, tu vois, je pense que j'irai voir ce film.
Autre film, Juliette au printemps, donc de Blandine Lenoir.
Oui, avec une belle distribution, Izia Higelin, Jean-Pierre Darroussin, également Noémie Lovski.
Apparemment, semble-t-il que c'est peut-être une des meilleures prestations d'Izia Higelin.
Ouais. J'aime bien, je trouve qu'elle a beaucoup de charme.
Oui.
C'est adapté d'un roman graphique, d'ailleurs.
Moi, j'apprécie particulièrement Izia Higelin, d'ailleurs. Beaucoup de talent, que ce soit musical ou artistique, enfin, sur un plan cinématographique.
Izia, si tu nous entends, nous t'invitons dans ce studio.
C'est quand tu veux.
Voilà, c'est quand tu veux, surtout.
Voilà. Autre film, Léon, de Andy Nachon et Papou Curotte.
Effectivement, mais a priori, ce n'est pas la suite du film de... avec Jean Reno, tu vois ce que je veux dire, de Besson,
à ce moment-là. Ah oui, tout à fait. Sinon, ça s'appelait déjà de Léon 2, mais... allez, on passe et il y a un autre film de Rose Glass, Love Lies Bleeding, film, me semble-t-il, je pense là encore, assez intéressant,
ouais.
Qui, en fait... où on retrouve Kristen Stewart qui survole ce thriller lesbien étrange et donc au charme gentiment entêtant. En tout cas, ça peut être un film très très intéressant que ce Love Lies Bleeding.
Oui, c'est réalisé par, tu l'as dit, Rose Glass, qui avait fait un excellent film à la lisière du fantastique, même on peut dire fantastique, c'était Saint-Maud. J'avais adoré ce film, magnifiquement interprété d'ailleurs, et doté d'une photographie sublime. Donc franchement, ça donne envie de découvrir ce nouveau film de Rose Glass.
Autre film de Marjan Satrapi, Paris Paradis. Là aussi... c'est un film où Marjane Satrapi, qui est associée d'ailleurs à Vincent Parrono au début de sa carrière de réalisatrice, eh bien elle vole de ses propres ailes depuis maintenant une décennie, mais pas question d'être solitaire, et pour Paris Paradis, elle s'entoure d'un casting monstre, hein, Monica Bellucci, Rossi de Palma, Ben Aldridge, André Dussolier, Roche Dizem, Alex Lutz, donc c'est quand même une très très belle distribution. Ah, oui. Et donc cette belle mosaïque d'acteurs, la cinéaste l'utilise pour construire une sorte de film choral où seul un élément relie les personnages entre eux, c'est la mort. Voilà.
Ouais. Mais après, c'est quand même une comédie. Mais tu sais, Marjane Satrapi, bien sûr, c'est l'auteur de Persepolis, à la fois le roman graphique et le dessin animé. C'est aussi l'auteur d'un thriller avec Ryan Reynolds qui s'appelait The Voices, qui était vraiment également très réussi. Donc, c'est quelqu'un d'assez passionnant. Et moi, j'irai voir quand même Paris Paradis, même si, bon, il y a quelques critiques qui font un petit peu la fine bouche, mais je pense que c'est à voir.
Très bien. Et pour en finir, donc, un documentaire français de Stéphane Breton. Ce sont les premiers jours. Qui sont-ils et que font-ils pour répondre à cette question? Eh bien, pourtant simple, eh bien, les premiers jours misent tout sur la minutie de l'observation de son spectateur. Film sans dialogue et surtout sans voix off, eh bien, ce documentaire fait le pari de raconter le quotidien de ramasseurs d'algues sur la côte nord du Chili. Film assez, là encore, intéressant. Film peut-être un petit peu contemplatif, sans doute, mais qui a le mérite de nous faire, de nous convier, en tout cas, au quotidien de travailleurs chilien.
Je pense que si on aime la mer, si on aime les embruns, je pense que c'est un film qui peut nous plaire. Hein, on va découvrir tout cela. Merci Laurent. Voilà donc pas mal de films à l'affiche à partir de ce mercredi. Alors évidemment, il y en a un petit peu pour tous les genres. Le film de Rose Glass avec Kristen Stewart, le film Les Guetteurs de Shyamalan. Et puis voilà, également le film avec Noémie Lvovsky que j'attends, et le Marjane Satrapi. Donc plein de propositions fort alléchantes, mais il est 22h et bientôt 38 minutes à la pendule de RTF. Nous allons donc devoir nous quitter pour ce soir. Mon cher Laurent, on se retrouve théoriquement lundi prochain aux alentours de 20h30 sur Radio Troglofête.
Tout à fait.
Et puis en attendant, les auditeurs peuvent nous réécouter en podcast sur le site de la radio, rtflimoges.com, donc n'hésitez pas pour écouter cette émission. Et en attendant, évidemment, on vous souhaite une excellente fin de soirée.
Et en précisant quand même, soyez fidèles à Cinéscopie si vous aimez le cinéma, parce que tout simplement, c'est l'avant-dernière de la saison. Et donc, voilà, il nous reste quand même deux petites semaines pour essayer de vous aiguiller sur le programme cinématographique, parce que c'est vrai que on va passer après au rythme d'été. Avec bien sûr le lot de quelques grosses sorties.
Oui, il y a quelques blockbusters qui vont sortir. Voilà. Peut-être un petit peu moins que d'habitude d'ailleurs, il y a quand même des films qui arrivent. Et puis donc restez bien à l'écoute pour les deux dernières émissions qui arrivent à partir de lundi prochain. Donc excellente semaine à l'écoute des programmes de RTF, mais aussi dans les salles obscures. Vous allez vous rendre nombreux. Et puis je vous souhaite une très bonne nuit. Et Laurent, je te dis à très bientôt.
Et à très bientôt, Chris. Et bien sûr, à lundi prochain pour vous éditeurs. Et allez fréquenter les salles obscures. Bonne toile, bonne semaine, à lundi.